prêtre dominicain, frère Adrien Candia, vous nous venez du Caire où vous êtes prieur. Vous fûtes à Sciences Po et à Ulm en histoire, mais Ouït l'appelle à un plus grand bonheur. Envoyé en Égypte, vous vous spécialisâtes en islamologie, et ce jusqu'à la thèse. C'est sur la liberté que tous nous avons hâte de nous laisser instruire. Il faut que je me taise.
Ah oui, alors là, je suis très impressionné. Ça va si je le fais en prose ou faut que je fasse un petit effort ? J'étais déjà très impressionné par votre nombre, pour dire la vérité. J'ai failli y penser, j'ai commencé par me dire « Oh, je suis sûr que, enfin, de mon temps, il n'y avait pas autant de monde dans les soirées d'aumônerie. » Et en vrai, je n'y suis jamais allé. Non, j'avoue, j'ai complètement... Je n'en suis que plus ému. J'ai mon principal... Ma principale action avec l'aumônerie de l'ENS, ça a été... à la fin, de contacter l'aumônier pour dire « Je rentre chez les Dominicains, comment on fait avec l'engagement décennal ?» Et il m'a donné d'excellents conseils que j'ai appliqués à la lettre et qui m'ont été très utiles. Donc voilà, je sais, mais ça n'est plus le même aumônier, enfin, ça n'est plus la même époque, puisque je suis assez vieux pour n'avoir pas connu le temps où il y avait un diplôme de l'ENS. Donc oui... je les ai vus arriver, mais après moi. Bref. Comme notre ami poète vous l'a dit, je vis en Égypte, je vis au Caire. Et je suis de passage à Paris quelques jours, en particulier pour à la fois participer à un groupe de dialogue islamo-chrétien. Et j'en ai profité aussi pour enregistrer un cours d'introduction à l'islam au Bernardin. Un truc en ligne, un MOOC. Pour tout vous dire, ils m'ont dit « on voudrait bien voilà, que vous fassiez une introduction à l'islam, on vient de faire une introduction au judaïsme par le rabbin, je sais pas quoi, ça marche super bien. » J'ai dit « Mais vous voyez pas que vous faites l'introduction au judaïsme par un rabbin et l'introduction à l'islam par un prêtre catholique. » Vous voyez bien. Et ils m'ont dit « Ah oui, mais c'est délicat. » Enfin bon, bref. Et on a un peu discuté et je leur ai dit « Mais... je pourrais venir avec un ami musulman qui fait une partie du cours, enfin, quelqu'un de très bien, et voilà, ils ont dit « Ah, ben, c'est une super idée, voilà ». Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que dans la préparation de ce cours, on a fait une séance sur les sujets qui fâchent. Une séance où on était tous les deux à se répondre, justement, sur les points qui peuvent être compliqués dans le dialogue islamo-chrétien. Alors, sans surprise... moi je lui ai parlé, je lui ai dit bah, le truc qui fâche, je lui ai dit bon bah pour le dialogue est-ce que tous les chrétiens vont en enfer pour toi, voilà les trucs bateaux comme la violence et machin, et lui m'a sorti un truc tout à fait attendu, à savoir la Trinité, est-ce que Jésus est Dieu, enfin ça c'était tout à fait attendu, et un qui était pour moi un peu moins. Il m'a dit bah on a quand même un peu l'impression nous les musulmans que vous, les chrétiens, vous prenez la loi un peu à la légère. Que, si Dieu prend la peine de donner une loi, ça se prend au sérieux. Vous expliquez que vous venez quand même du judaïsme, vous avez quand même l'Ancien Testament dans votre Bible. Un moment, les gars, faites quelque chose. D'autant que, je te rappelle, me dit-il, Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour abolir tout ça, mais pour l'accomplir. Et je me suis dit, tiens, il pointe quelque chose d'important... qui est, entre musulmans et chrétiens, le rapport qu'on peut avoir avec la loi. Alors il ne faut pas le faire de manière trop caricaturale en disant « les chrétiens sont dans la liberté, les musulmans sont dans la soumission ». C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent quand même dans la soumission, ou en tout cas qui le souhaitent. Mais de fait, je pense qu'il mettait le doigt sur un élément important, est difficile, et c'est de ça plutôt que je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de la loi quand on dit qu'on est là pour... Enfin, que la foi chrétienne, c'est la liberté. Parce que, de fait, en fait, quand on est chrétien, il y a quand même de la loi. Ça existe. Bien sûr, c'est un peu avec saint Paul tenir des grands discours sur la liberté par rapport à la loi, le fait que Christ nous a libérés de tout ça. J'ai moi-même écrit des livres sur le sujet et je vous encourage à les lire. Je crois qu'ils sont même à la bibliothèque de l'ENS. Voilà, donc on peut dire saint Paul, Philémon, tout ça, c'est formidable. Reste que, dimanche dernier, si je ne me trompe pas, on entendait à la messe Jésus dire à un homme qui, dans la version de Marc, n'est pas jeune, mais qui est jeune chez Matthieu, un homme qui vient le voir et qui lui dit « Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus commence, un, par le renvoyer au commandement. Donc il n'a pas complètement... il n'a pas rien à faire. Et le jeune homme insiste un peu, sentant que pour avoir la vie éternelle, il y a quelque chose de plus profond à vivre. Que ça, les commandements de base, il a déjà un peu expérimenté, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais il sent bien qu'il y a un secret de plus pour vivre une vie plus intense, plus vraie, plus complète. Et il attend certainement que Jésus lui donne un certain nombre de trucs à faire, du style se lever à 5h du matin, prendre des douches froides et faire... Et certainement est-il absolument prêt à le faire. Et vous savez qu'il repart tout triste. À mon avis, pas tant parce que Jésus lui a dit « Donne tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel et suis-moi. » Pas tant parce que ça va lui coûter cher, mais parce qu'il voit bien que ça va lui coûter absolument tout. Qu'il ne peut pas s'en sortir simplement en faisant un certain nombre de trucs. Que ce que lui demande Jésus est absolument hors de prix. Et on sait bien que le salut est censé être gratuit, que Dieu nous aime gratuitement, sans condition. Mais quand on voit l'histoire du jeune homme riche, on se dit, ouais, bah, ce produit gratuit, c'est un peu chéros. C'est pas donné. Justement, il faut tout donner pour... ça le perturbe un petit peu. Si ça, c'est pas du commandement de la part de Jésus, je sais pas ce que c'est. On a quand même un petit peu un truc qui ressemble à une loi. Et pour ceux qui en douteraient, vous connaissez peut-être, certainement, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Vous savez que l'évangile de Matthieu est construit par l'évangéliste avec 5 grands discours de Jésus. D'ailleurs, 5, c'est probablement un renvoi à la loi, au Pentateuque. Et le premier de ces discours, qu'on appelle le sermon sur la montagne, c'est clairement rempli de commandements. Même si ça commence de manière très lyrique avec les béatitudes, on a l'air un petit peu ailleurs, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ensuite, Jésus attaque de façon assez exigeante, en se positionnant précisément par rapport à la loi de Moïse. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondant au tribunal, c'est-à-dire, vous savez un petit peu, vous connaissez ça, c'est pas seulement le meurtre qui est condamné, c'est la colère, c'est l'énervement, c'est le mépris de l'autre aussi, enfin, c'est l'injure, tout ça, ça fait quand même, si c'est assimilé au meurtre, on se dit, bah quand même, on est peut-être quelques-uns ici à avoir un peu de sang sur les mains, et encore, vous ne conduisez pas au Caire. Ouais, un jour, c'était un jeune de la paroisse, je conduisais comme ça, puis c'était un dimanche où on allait à l'église, hein. C'était « Aimez-vous les uns les autres », c'était ça l'évangile du jour. Et me voyant conduire, elle me dit « Ah, mais j'ai hâte de t'entendre sur la mort du prochain !» Mais ça n'a rien à voir, c'est pas un prochain, c'est un connard. Bref, ça, c'est pas exactement ce que Jésus nous dit dans le sermon sur la montagne. Il continue... vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Là, c'est un peu plus exigeant. C'est pas juste l'adultère qui est problématique, c'est carrément le désir. Enfin, pas tous les désirs, mais quand même. On se dit, là... Et ça continue comme ça, sur les serments, sur... Et Jésus, comme si ça ne suffisait pas, en rajoute sur le rapport à la violence. C'est là qu'il nous dit, celui qui, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, enfin toutes sortes de choses qui apparaissent comme des commandements et pas des petits commandements. Ce qui laisse, ce qui peut laisser un peu rêveur. Je vous le disais, on nous l'a toujours dit depuis le catéchisme. Le catéchisme, j'ai commencé dans cette pièce-là, je suis assez ému. J'ai grandi dans ce quartier et j'allais au caté là, dans la salle de Compostelle. Bref, moi on m'a dit ici, Dieu t'aime, qui que tu sois, quoi que tu fasses, Dieu t'aime. Super, mais quand on écoute Jésus nous donnant ces commandements-là, on se dit, c'est un amour gratuit super exigeant. Quelle place y a-t-il pour la grâce, si la grâce ça signifie réellement la gratuité, ce qui est donné sans condition. Et puis, quel espace aussi pour la liberté? Si on est censé obéir aux commandements, on peut toujours avoir des discours sur la liberté. La liberté est un truc dont on peut très mal parler. Enfin, je veux dire, tout le monde est pour la liberté, donc il est parfaitement normal que dans l'endroit le moins libre du monde, on vous parle de liberté. Enfin, les démocraties populaires, on ne parlait que de liberté, de démocratie. Bon, les gens n'y croyaient plus beaucoup. Et dans une secte où vous serez complètement vissé au gourou, on vous dira, mais c'est ta liberté, tu sais. Vous voyez les trucs où on vous dit, mais alors tu peux venir, mais sens-toi libre. Surtout toi libre de dire oui. Bon, est-ce que la foi chrétienne, c'est ce genre de liberté-là? On en parle un petit peu, mais en vrai, ça n'existe pas. Je crois que, en tout cas, un certain nombre de chrétiens vivent en se disant Jésus, enfin Dieu m'aime comme je suis et je suis libre. Ça, d'accord, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, pas du tout. Et vivent avec ces deux réalités un petit peu parallèles en se disant on sait bien que dans la pratique, il faut vraiment faire ce que Dieu veut, parce que sinon ça va super mal se passer. Si c'est le cas, en vrai, c'est un peu problématique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces commandements, et notamment ceux du Sermon sur la montagne, les commandements de Jésus, qui sont infiniment plus exigeants, une fois encore, mais j'aurais pu en citer d'autres à d'autres endroits, commencez par aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, essayez un peu, aimez comme Jésus nous a aimé, on va voir. Donc, ces commandements que Jésus nous donne à réaliser semblent pourtant à peu près hors de portée. Ce qui rajoute un problème. Non seulement on est censé obéir, non seulement sans ça on n'est pas sûr d'être sauvé, mais en plus on n'y arrive pas. On n'y arrive pas même quand on ne conduit pas au Caire. Donc c'est pas si simple. Une solution assez classique, notamment des commentateurs du Sermon sur la montagne, notamment au milieu luthérien, ont trouvé un truc qui est plutôt astucieux, mais qui ne marche pas. Le truc plutôt astucieux, c'est de dire, en fait, Jésus nous donne des commandements qui sont complètement hors de portée, comme ça on se casse la gueule, et on se tourne vers Dieu, et on sait qu'on est sauvé par grâce. Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, il y a au milieu du Sermon sur la montagne, il y a le Notre Père, au beau milieu, c'est pour nous dire, ok, vous êtes complètement perdu avec les trucs que Jésus vous demande, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est vous tourner vers Dieu et dire, j'y arrive pas. Ce qui est loin d'être bête, mais il y a un petit problème quand même. Il y a un petit problème, c'est que si on prend bien le Sermon sur la montagne comme la loi que Jésus nous propose, ça se termine par la fameuse histoire des maisons bâties sur le roc et sur le sable. Vous savez, le truc des trois petits cochons. Hein. Et en fait, qu'est-ce que c'est que la maison bâtie sur le sable? C'est celui qui entend ses commandements et qui ne les met pas en pratique. Et la maison sur le roc, c'est celui qui entend les commandements et qui les met en pratique. Donc, Jésus semble bien nous dire, les gars, si je vous dis ça, c'est pour que vous le fassiez. C'est pas pour que vous n'y arriviez pas et que vous vous tourniez vers Dieu en disant « j'y arrive pas, il faut que tu m'aides, il faut que tu fasses ça à ma place, parce que moi je peux pas ». Non, non, on est censé pouvoir vivre de ce dont Jésus nous parle. Mais au fond, je ne suis pas tout à fait sûr que ces commandements soient si inapplicables que ça. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit ça le vrai problème. En fait, quand vous prenez ce dont Jésus parle, il y a énormément de trucs qui sont très faciles à appliquer. Plein de commandements assez précis, comme quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi. S'il s'agit d'un commandement à faire appliquer, c'est cool parce que on n'est pas nombreux à faire sonner de la trompette avant d'aller faire l'aumône. Hein ? Jésus n'a pas dit ne t'enorgueillis pas, il ne fait pas sonner de trompette. Dans le code civil, quand on dit un truc, on dit un truc, hein, on ne fait pas des images. Sinon, c'est difficile d'avoir des lois avec des images. Donc, très bien, là-dessus, on y arrive. Et puis, même, il y a plein de choses qui ne sont pas si compliquées. En fait, quand Jésus dit « à qui te demande, donne », en fait, on peut le faire. En vrai. C'est même plus simple que... Mais est-ce qu'il faut toujours le faire? Est-ce qu'il faut vraiment donner à quiconque nous demande? Est-ce que c'est ce qu'on a en tête? Est-ce que... Si on ne le fait pas, est-ce que c'est parce que on est des grosses pinces? Ou est-ce que... Parce que franchement, parfois, on se dit « là ». C'est pas la bonne chose à faire. Il y a pire encore. Il y a cette histoire de quand on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. C'est pas difficile à appliquer strictement. Moi, quand j'étais novice, on est toujours un peu naïf quand on est novice. J'étais petit, je sortais de l'école et dans une je travaillais dans une association, bref, et il y a un petit pot d'association en fin d'année, et là, il y a un gars qui avait l'air d'avoir profité du pot, un petit peu excessivement, qui me tient un grand discours, apprenant que je suis novice et tout ça, et il m'explique qu'il n'y a pas de vrai chrétien, et son truc était un peu confus, je pense qu'il avait vraiment picolé, et moi, je croyais à la nature humaine, et je pensais à Nietzsche, il n'y a qu'un seul chrétien, il est mort sur la croix, je me disais, au fond, est-ce qu'il n'est pas en train de toc? Et, mais non, je pense que c'était plus le Kier, là, mais, que Nietzsche, mais bon. Et il m'explique qu'en fait, il n'y a pas de chrétien, et pour illustrer son propos, il me file une baffe. Alors, moi j'étais en train d'essayer de comprendre, de chercher une cohérence à Et comme j'étais de bonne volonté, je me suis dit, il est en train de me dire, il va essayer de me prouver que je ne vais pas lui tendre la joue gauche. Parce que là, d'ailleurs, il m'a frappé sur la joue gauche. Mais bref, j'étais pas à pinailler, à dire, tu m'aurais frappé sur la joue droite, mais là, tu manques de bol, mon gars. Et donc, je dirais pas que j'ai vraiment tendu la joue, mais j'étais pas si loin, j'étais un petit peu... Je me demandais ce qu'il fallait faire, j'étais pas super à l'aise, et je me sentais un peu con, pour dire la vérité. C'est-à-dire que je me disais, est-ce que vraiment je suis en train de faire ce que Jésus demande? Est-ce que c'est ça, quand Jésus nous dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tend l'autre joue, est-ce qu'il est en train de dire, quand vous discutez avec un mec bourré, et qu'il vous balance une veille de façon totalement inattendue, est-ce qu'il peut être juste là à dire, à sourire et à réfléchir à Nietzsche et à... Bon. J'étais pas hyper satisfait du truc. J'y ai repensé quelques années plus tard, quand je trouve que je m'occupe de la paroisse francophone au Caire, et un père de famille avec qui j'allais courir régulièrement, me raconte un matin que... alors, il est un peu embêté par l'histoire qu'il a me raconter. C'est que son fils, qui devait être en sixième, en fait, il y avait eu une petite crise au collège, chez les sixièmes B, parce que il avait fichu un point dans la gueule à un de ses potes, qui n'était pas vraiment un de ses potes, qui, en fait, le persécutait un peu. Voilà, enfin, les classiques histoires de harcèlement scolaire. qui s'était réglé, en fait, globalement, par un poing dans la gueule, qui avait calmé les choses. Alors, il n'avait pas, ça n'avait pas tout réglé, hein, et donc le papa, d'ailleurs, à juste titre, les parents avaient bien pris les choses, ils s'étaient dit, bon, bah, il faut qu'on assainisse un peu l'ambiance entre nos enfants, il faut, enfin, ils ont essayé de faire des trucs, ils ont essayé de faire du foot, je sais pas quoi, enfin bref. Mais là où il était un peu gêné en me racontant ça, c'est que comme parent, il savait bien que non, c'est pas par la violence qu'on règle les choses, mais il avait été lui-même collégien, et il savait bien, très bien, qu'il y a des moments où il faut savoir se faire respecter. Et que d'ailleurs, ça avait été, le poing dans la gueule avait été très utile. Ça avait un peu ramené l'autre à du réel, enfin le harceleur. Enfin, et dans le cas d'espèce, c'était pas absurde. Et il était un peu embêté parce que est-ce qu'il fallait qu'il engueule son fils, est-ce qu'il fallait qu'il soit fier de lui, peut-être un peu les deux, vous savez le truc. Ah, c'est pas bien, mais. Ben, voilà. Mais avec ce problème, est-ce que du coup, ce que dit Jésus, oui, c'est bien en théorie, mais en vrai, ça s'applique pas. Un problème quand même. Non, ça concerne pas. Mais est-ce que ce que dit Jésus, c'est les gamins harcelés doivent se laisser harceler et se faire taper dessus et tendre l'autre joue? Est-ce qu'il dit les femmes battues doivent se laisser battre et tendre l'autre joue? Et là, on se dit s'il faut appliquer ces commandements comme ça de façon littérale. Le problème, c'est pas une fois encore qu'il soit si difficile à appliquer, c'est qu'il y a tout un tas de situations où, en conscience, on pense qu'il ne faut pas les appliquer. Sans même aller jusqu'à « si ta main t'entraîne au péché, coupe-la », dont on va se dire « c'est une image ». Mais même sans ça, il y a plein de trucs dont on va se dire « c'est pas tout à fait… je pense pas qu'il faille l'appliquer ». D'autant plus que, en vrai… Ça, c'est le drame quand on écrit des livres, d'ailleurs. C'est que toutes nos formules sont toujours fausses. Et c'est vrai aussi pour, malheureusement, même pour la parole de Dieu. Fausse, je m'explique, hein, rassurez-vous. C'est que on peut toujours tordre on peut toujours tordre le meilleur commandement ou la meilleure recommandation dans un sens qui lui fait perdre toute utilité. Ça peut toute phrase, tout conseil que vous donnez à quelqu'un peut devenir nocif. Si c'est pas reçu par la bonne personne, si c'est pas dans le contexte, on peut en faire absolument n'importe quoi et c'est la même chose. Alors quand on parle à quelqu'un, on peut directement, on peut voir un petit peu ce que la personne comprend et puis essayer de rattraper le tir. Ça a dû vous arriver 100 fois déjà dans votre vie, mais alors oui, quand on écrit des livres, c'est un peu plus pénible parce que vous voyez même pas ce que les gens comprennent et donc il faut toujours être un petit peu prudent. Par exemple, si vous tenez des discours généraux, ça c'est un vrai problème, vous tenez des discours généraux aux ados sur la sexualité. Le problème, c'est que vous avez des ados différents. Et donc, si vous faites un discours super général, où vous dites « Ouh là là, l'enjeu, c'est surtout que ça ne se rapproche pas trop, hein, entre les filles et les garçons, il faut quand même garder une petite distance raisonnable. » Et donc, vous tirez à boulet rouge en disant « Attention, 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 hein, c'est pas comme ça que ça se passe. » Le problème, c'est que ceux qui vont vous écouter, c'est les timides. C'est les timides qui déjà, parce que évidemment, ces trucs-là, enfin, vous avez tous été ados, le domaine de l'amour et de la sexualité, ça fait très envie et ça fait très peur. Timide peut se dire, ça tombe bien, j'étais mort de trouille, mais c'est pas de la trouille, en fait, c'est Jésus. c'est commode, c'est pratique. On se dit, c'est cool, cette peur que j'ai en moi et qui par ailleurs est normale, mais qu'il faut un moment affronter, en fait c'est la volonté de Dieu, donc tout va très bien, je n'ai absolument pas besoin d'affronter quoi que ce soit. Alors c'est lui qui en général va entendre maintenir une distance de sécurité, mais lui aurait certainement besoin, lui ou elle d'ailleurs, besoin qu'on dise à un moment il faut quand même être capable de surmonter sa peur et d'aller, enfin, et quand on dit aimer, il y a plusieurs significations à ce verbe-là, mais ça inclut un petit peu la relation amoureuse, il ne faut pas en avoir peur. Et voilà, et donc quand on tient un discours général, on ne sait pas par qui ça va être entendu, et en général, ce n'est pas entendu par les bonnes personnes. Et donc on peut tout à fait, il y a quand même un certain nombre de lecteurs à ce bouquin-là dans l'histoire du monde, et tous ne sont pas dans le contexte exact que Jésus a en tête quand il donne tel ou tel commandement. Et donc une fois encore, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue, pour une femme battue ou pour un hooligan, c'est pas totalement le même contexte. Vous voyez bien. Et donc, on ne doit pas l'appliquer de la même façon. C'est d'ailleurs... Enfin, c'est cette difficulté-là, elle me paraît indiquer un élément important de ce que c'est qu'un commandement pour Jésus. D'ailleurs, quand on regarde, en vrai de vrai, quand vous voyez par exemple cette histoire de taper sur la joue droite, c'est pas tellement un commandement, c'est une anecdote. C'est une micro-anecdote. C'est une mise en situation. Puisque précisément, sinon on dirait pas la joue droite, la joue gauche, etc. Mais c'est une mise en situation qu'on peut plus ou moins, qu'on peut comprendre, qu'on peut appliquer, qu'on peut faire sienne. Mais il ne s'agit pas, ni là, ni aucunement dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas d'une prescription. Il s'agit d'une direction. Et c'est très différent. Qu'est-ce que c'est qu'une prescription ? Ben, on en a plein, par exemple. Ben, dans l'Ancien Testament, vous en avez, par exemple, les interdits alimentaires. Pas de cochon, pas de cochon. C'est simple. Il n'y a pas trop de à se compliquer la vie. Vous mangez du saucisson, vous avez enfreint la prescription. Vous n'en mangez pas, vous êtes du bon côté de la barrière. C'est simple. Mais ça n'existe pas que dans la Bible. Hein. Votre avis d'imposition, vous payez vos impôts, c'est bon. Vous ne payez pas vos impôts, ça ne va pas. Et vous ne pouvez pas dire « je vais payer plus !» Parce que comme ça, c'est mieux. Non, c'est pas ce qu'on demande. Je vais manger pas de saucisson, mais je ne vais pas non plus manger de poisson. Personne n'a demandé ça. Il y a une prescription, tu l'appliques, et tu ne vas pas au-delà, tu ne fais pas autre chose, tu ne fais pas... Et si tu ne le fais pas, eh ben, t'es dans le rouge. Et puis voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de... Quand Jésus nous dit... que quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal, quand il attaque la colère, je crois que ce n'est pas du tout du même ordre. Ce n'est pas du même ordre, c'est une direction. Jésus sait bien, il nous connaît quand même un petit peu, comme s'il nous avait fait, que avec la colère, ce n'est pas un truc qu'on peut régler comme payer ses impôts. Que la colère, on l'a en soi, on deal plus ou moins bien avec. Et il ne nous invite pas simplement à ne pas nous mettre en colère comme on évite de tuer quelqu'un, mais à apprendre à la maîtriser. Ce qui n'est pas du tout du même ordre. Ne pas tuer quelqu'un, c'est un truc qu'on peut vraiment éviter. Avoir de la colère en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut éviter. C'est quelque chose qu'on peut apprendre progressivement à maîtriser. On voit très bien, d'ailleurs, en général, là, dans quelle direction Jésus veut nous emmener. Parce que le problème de la colère, d'ailleurs, vous aurez remarqué, c'est que là, on n'est jamais quitte. Autant avec le saucisson, vous n'en avez pas mangé, vous avez appliqué. Autant ce que Jésus dit sur la colère, sur le désir, etc., vous n'allez pas me dire « Ah, moi, c'est réglé. C'est fini, c'est bon, j'ai réglé ça. » Non, j'ai pas réglé. Je m'en sors à peu près. Aujourd'hui, tant mieux. Mais c'est un effort, on peut toujours faire mieux, alors que sur le saucisson on peut pas faire mieux. Mais c'est vrai, on va pas se dire je vais manger rien du tout, de demander nulle part, personne ne te demande ça. Voilà, de même que oui, je parlais d'impôts, mais enfin on a la dîme dans l'Ancien Testament, vous donnez 10%, et personne dit ah, mais moi, je vais donner 15%, mais c'est pas le sujet. Alors que face à la colère, on voit très bien comment on peut faire mieux, comment on peut progresser, parce qu'il ne s'agit pas tellement d'une d'une norme à tenir ou pas tenir, avec une barrière, avec une limite, mais bien d'un changement de l'être, de notre être, ce qui est tout à fait différent. C'est pas moins exigeant, effectivement. Et je crois que ça, c'est essentiel. Ça nous met sur la piste de ce que Jésus veut faire. Vous savez peut-être, vous savez certainement, que dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie, chapitre 31, chapitre magnifique du livre de Jérémie, avait annoncé que dans le temps messianique, la loi serait dans les cœurs. Qu'on n'aurait plus besoin d'une loi écrite, parce que la loi serait dans les cœurs. Et la tradition chrétienne a vu dans la venue du Christ l'accomplissement aussi de cet oracle-là qu'on a rapproché du don de l'Esprit Saint, en disant bah ouais, on a la loi dans les cœurs. Mais on se dit bah du coup les commandements c'est bon, on n'a pas besoin, on peut arracher le serment sur la montagne. Non, c'est la loi est dans les cœurs, non pas parce qu'on a une absence de loi, mais parce que si vous voulez suivre la loi du Christ, vous êtes obligé de commencer par l'intérioriser. Vous êtes obligé de recevoir la direction et de vous dire maintenant qu'est-ce que j'en fais. Cette histoire de tendre la joue gauche, ça, une fois qu'on est d'accord pour dire que ça ne s'applique pas comme ça, on comprend en fait assez, on comprend même très bien où Jésus veut nous emmener. Il s'agit de baisser le niveau de la violence. Même quand on t'agresse, l'objectif c'est de baisser le niveau de la violence. Comment le faire? Alors là, débrouillez-vous. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus qui nous dit comment, dans toutes les situations, on peut faire baisser le niveau de la violence. Mais il nous indique très clairement la direction. Comment on fait? Voilà. On est obligé, à un moment, de se dire « Ok, je suis dans cette situation, que faut-il faire là, maintenant, tout de suite ? Quel est le danger pour moi, pour les autres ? Quelle est la cause de la violence ? On ne peut pas se contenter, et dans aucun cas, de se dire « Ah, j'applique bêtement, Jésus l'a dit, je le fais, comme ça je suis sûr de ne pas me gourer. » Précisément, tout l'évangile est fait pour que ça passe aussi par nous. L'intériorisation, c'est que on ne peut pas se contenter de recevoir une loi extérieure. On est obligé de se dire « Ok, maintenant je fais quoi ?» Maintenant, dans la situation dans laquelle je suis, je fais quoi ? Les commandements ne remplacent pas la conscience. La conscience personnelle, la conscience morale, ce qui en nous nous indique le bien ou le mal. Le commandement est fait pour l'informer, pour la former, pour l'aider à comprendre les choses, mais pas pour la remplacer. Quand on applique, il suffit d'appliquer bêtement un truc, il n'y a pas besoin de conscience. Là, au contraire, la loi de l'Évangile nous renvoie constamment à notre propre conscience. Ok, maintenant, comment je fais? Quel est l'objectif souhaitable? Qu'est-ce que je fais avec ce commandement-là? Comment être fidèle à ce commandement? Comment tendre réellement l'autre joue et pas comme un novice un peu neuneux? Oui, mais c'est plus compliqué, en fait. Comment, moi, là, dans cette situation, je tends vraiment l'autre joue? Et la liberté chrétienne, elle est, je crois, d'abord là, dans la place, totalement, enfin dans le rôle irremplaçable de la conscience personnelle. C'est là que ça se joue. Et cette centralité de la conscience, elle est absolument classique. C'est pas moi qui vous la propose pour faire moderne et cool et adapter à un monde post-moderne. Pas du tout. C'est le cœur de morale assez classique, celle de Thomas d'Aquin, qui va jusqu'à considérer, Thomas d'Aquin, grand dominicain du XIIIe siècle, qui va jusqu'à considérer que la conscience oblige toujours. En fait, il n'y a qu'un seul péché, c'est d'agir contre sa conscience. Le péché, c'est quoi? C'est de faire ce que je pense être mauvais. On peut se gourer, on peut se tromper. Bref, ça nous est tous arrivé de penser qu'un truc était bien, alors que c'était complètement idiot. Quand j'avais 16 ans, je pensais que c'était très bien de d'ouvrir les bières avec des dents, avec les dents, comme ça. Je pensais que ça impressionnait les filles, ça les impressionnait pas du tout. Et vous voyez comment j'ai terminé. Voilà. Et c'était mauvais pour les dents. Bref. Tout le monde peut être un peu idiot à un moment et se dire, ça, c'est, je pense que c'est bien. Et en fait, objectivement, c'est parfois même beaucoup plus grave que d'ouvrir une bière avec les dents. Donc on peut, la conscience peut se tromper dans des cas graves, mais même dans ces cas-là, on n'a pas d'autres règles à suivre, parce que c'est elle qui nous indique. Alors on peut être fautif du fait que notre conscience nous dise n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on a pu ne pas se renseigner, on a pu ne pas prendre la peine, on a pu être négligent, voire complètement... inconscient et ne pas du tout prendre la peine de regarder une situation. De ce point de vue, on est certainement en faute, mais reste que, à l'instant T, notre boussole morale reste notre conscience personnelle et pas un manuel de morale. Pourquoi ? Parce que le manuel de morale, même avec tamponné par tous les papes que vous voulez, ne prévoit que des situations théoriques. Or, la vie morale, elle n'est jamais dans une situation théorique. Elle est dans une situation réelle dans laquelle il y a énormément de paramètres à en prendre en compte. Et personne ne peut avoir prévu tous les paramètres dans lesquels vous êtes pris. De pression, de temps qui est compté, de gens à qui faire plaisir, de difficultés diverses. Enfin, vous voyez très bien que la plupart des décisions qu'on a à prendre sont au carrefour de paramètres très différents. Et on est rarement à se poser la question dans l'absolu. On est là à se dire bon, comment je le fais, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, on a des problèmes avec ma femme pour... on a des problèmes avec ma femme pour avoir des enfants. Elle me dit faudrait recourir à la PMA. Moi, je me dis oui, mais là, il y a quand même des problèmes. Mais en même temps, je vois bien que c'est aussi notre couple qui est dedans, qui est en danger. Enfin, et il faut essayer d'ajuster entre plusieurs biens. C'est ce qu'on appelle un conflit de valeurs, classiquement. C'est-à-dire que vous avez plusieurs bonnes choses, qui est que vous voulez préserver la vie des embryons surnuméraires et vous ne voulez pas que votre femme vous quitte. Ce sont deux bons objectifs. Comment vous faites avec ça ? Ben, c'est pas évident. Et vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué que dans un truc purement théorique. Et c'est pour ça que nous avons... Donc, que le siège de la décision morale, ben, il est en nous. Il est dans cette conscience personnel. Et même si elle se trompe, la conscience oblige toujours. Thomas d'Aquin va jusqu'à prendre un exemple un petit peu frappant, que j'aime bien citer. Il nous dit quand quelqu'un qui ne croirait pas en conscience que le Christ est le sauveur du monde. Il a tort peut-être, mais ça arrive, on en connaît tous. Et qui sont des gens très bien, et qui, en conscience, ne croient pas que le Christ est le sauveur du monde. Dans sa situation, recevoir le baptême est un péché. Objectivement, recevoir le baptême, c'est très bien, c'est pas un mal du tout. C'est un péché, pourquoi ? C'est la différence entre le mal et le péché, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi, dans son cas, à lui, c'est un péché, alors que c'est pas du tout un mal ? Parce qu'il est convaincu que c'est un mal. Et on ne peut jamais dire « Oui, mais moi, je ne voulais pas, mais on m'a dit de le faire, on m'a dit que c'était bien. » Ça n'est pas... malheureusement, au jugement dernier, on ne pourra pas arriver en disant « Mais moi, je ne voulais pas. Mais on m'a dit. » Mais je vous assure, hein, on m'a dit... Alors, le frère Adrien m'a dit « Non, non, vous assumez. Je ne porte rien ce jour-là. » Parce que, de fait, on a une conscience qu'on est toujours censé suivre, y compris donc quand elle se trompe. Et là-dessus, en revanche, la conscience, elle a besoin d'être formée pour être bonne. Et c'est là précisément que les commandements vont jouer un rôle souvent très utile. C'est qu'ils vont nous dire, attention, au-delà de cette limite, c'est dangereux. C'est jamais des absolus d'ailleurs. Enfin, on dira, tu ne tueras point, le meurtre, oui, mais il y a des cas de légitime défense collective, où il n'y a pas moyen de faire autrement, et pour mettre un agresseur hors d'état de nuire, ben, on peut le tuer justement. Et ça ne veut pas dire que. En le tuant, on fait un mal, mais pas un péché. Pas la même chose. Et je ne dis pas rien de très original, mais ce qui est très important, c'est que le commandement, il reste utile, parce qu'il nous dit, oh mon gros, avant d'appuyer sur la gâchette, tu réfléchis, parce que là, tu es en train de transgresser quelque chose d'énorme. Alors, tu es sûr de toi ? Oui, à peu près. Ok. Mais les commandements sont précisément là, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, ils sont là pour nous dire, alors attention, tu ne sais pas où tu vas. Si tu dépasses cette limite, à tes risques et périls. Une petite image de ça. Vous voyez ce que c'est qu'un chenal. Vous voyez, sur les ports, on indique vous avez des bouées qui indiquent le passage pour que les bateaux puissent passer en sécurité. Les bouées, c'est l'image des commandements, ne sont pas des absolus. C'est-à-dire que l'endroit n'est pas nécessairement dangereux. Selon que vous soyez un pétrolier ou un pédalo, vous n'êtes pas totalement dans la même situation. Et donc globalement, en pédalo, vous pouvez vous dire « Non mais cette bouée ne me concerne pas et votre risque de vous échouer sur les rochers est limité. » Et donc ça, c'est vous qui le savez, si vous êtes en pétrolier ou en pédalo. C'est vous qui pouvez juger. Mais ce qui est toujours grave, en tout cas, c'est de faire comme si le commandement n'existait pas. C'est de s'en affranchir, de dire « Non, ça ne me concerne pas. » En revanche, de pouvoir se dire, bah, dans la situation où je suis là, je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est un peu différent. Et donc ça, c'est le premier élément de la liberté chrétienne, c'est que le commandement n'abolit jamais la réflexion et la décision en conscience. L'autre élément essentiel, c'est qu'il ne nous est pas demandé tellement de faire le bien, d'appliquer. C'est pas tellement de faire ce qui est commandé, parce que c'est bien, mais d'aimer le bien, de vouloir le bien. Ce qui n'est pas la même chose. On peut se soumettre à un commandement, c'est pas le faire sien. C'est-à-dire, je me soumets à la volonté de Dieu parce qu'il est le plus fort, parce que sinon il m'envoie en enfer. Alors, ok, moi j'aurais voulu être prof d'histoire dans un collège dans la banlieue de Lille, et puis bah, je me retrouve dominicain parce que Dieu m'a forcé la main et m'a dit, toi tu vas y aller. Ok, bon, bah, j'ai pas le choix parce que c'était ça ou l'enfer. Bon, bah, ok, j'ai dit ok, j'ai fait ce qu'il veut. Là, ça s'appelle se soumettre à une volonté, mais ça n'est pas l'affaire sienne. L'affaire sienne, c'est se dire, en fait, je crois que ça, c'est non seulement la volonté de Dieu, mais en fait, c'est ce que je pense être bon pour moi. Ça, c'est ce que je veux. C'est précisément sortir de la dualité, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que je veux. On peut partir du principe que on veut tous les deux la même chose, le bien, et notamment mon bien. Et à partir de là, normalement, on va à peu près dans la même direction. Et donc, l'objectif n'est pas tellement que je fasse ce que Dieu a commandé parce que c'est comme ça et pas autrement, mais parce que c'est bien, et parce que je suis convaincu que c'est bien. Parce qu'en conscience, je crois qu'il y a là un véritable bien, et comme bien il m'attire, il me fait envie, et je souhaite l'appliquer. Je souhaite en vivre. Et je crois que d'ailleurs c'est un élément assez fondamental. Enfin, l'ennemi de la liberté, il y a des années de ça, j'avais avec un petit groupe de lycéens, de monnerie de lycéens, on avait fait une soirée sur la liberté, alors c'était très très bien parce que tout le monde est pour, et puis les lycéens étaient, ouais, vu la liberté, super. Et je leur demande très bien, quels sont les ennemis de votre liberté? Et alors là, vous imaginez, vous connaissez les lycéens, on avait quand même les usual suspects, qui étaient quand même les parents et les profs. Ah oui, il y a une merde, qui se levait tôt, aller en cours, suivre des trucs pas intéressants, etc. Alors là, j'ai un peu joué à le con, et je leur dis, ah, mais oui, je comprends, mais c'est parce que, en fait, vous voulez pas faire d'études. Ah, mais si, alors là, ils avaient plein de projets, plein d'envies, plein de trucs à faire. Je dis, mais alors, attendez, je comprends pas, parce que du coup, les parents et les profs, ils vous permettent de faire ce que vous voulez faire. Alors, il y a une grosse erreur 404 dans le cerveau. Ils se sont dit, mais attends, mais... Oh, oui, on veut... Je veux être médecin et je veux dormir le matin. Alors, justement, là, il y a un petit problème. Voilà, tu t'aperçois que la volonté, c'est compliqué. Et justement, on commence à creuser un peu le truc. Et là, ils s'aperçoivent que les ennemis principaux de leur liberté étaient plutôt du côté de la paresse, de l'addiction, du péché, en gros. Enfin, tout ce qui les empêche de faire ce que, véritablement, ils veulent faire. Et que c'est beaucoup plus compliqué à régler que les parents et les profs. Et la liberté, et tout l'enjeu de la liberté chrétienne, c'est bien d'arriver à faire ce qu'on pense être bon. Et pour ça, quand même, la première des choses, c'est de savoir ce qu'on veut. Ça a l'air con comme ça, mais il m'arrive assez régulièrement d'accompagner des jeunes spirituellement, et je leur complique souvent un peu la vie, parce que je les renvoie autant que possible à la question « qu'est-ce que tu veux ?». Et en général, ce n'est pas ce qu'ils viennent chercher. Surtout quand ils ont une bonne éducation chrétienne, quand ils ont été scouts, on leur a dit « il faut... bien faire tout ce qu'il faut et y aller à fond ». J'ai rien contre les scouts, mais... Et ils sont là à se dire, enfin, ils ont grandi avec une espèce d'image idéalisée de la sainteté à laquelle il faut arriver. Il faut qu'il reste un truc tout à fait extérieur à eux et tout à fait déprimant quand ils s'aperçoivent qu'ils n'y arrivent pas. Et ils ont quand même comme dans un coin de la tête l'idée que, avec suffisamment de coups de pied au cul, ils y arriveront. Et donc, ils viennent demander un accompagnateur pour que l'accompagnateur leur donne des coups de pied au cul. Et c'est précisément pas du tout ce que doit faire un accompagnateur spirituel, parce que la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, ça n'est pas les coups de pied au cul, pour ceux qui auraient encore des doutes. La vie chrétienne, c'est précisément de faire ce que ce qu'on veut, c'est-à-dire le bien. De choisir le bien, et pour cela, on n'est pas toujours convaincu. Et ça, je crois que c'est un exercice, en fait, assez compliqué d'accepter, surtout quand on a devant soi une espèce d'image, justement, de perfection, qu'on appelle sainteté à tort, et qui peut être très, très écrasante. C'est peut-être de ça, d'abord, qu'il faut se libérer. Apprendre à se libérer pour se demander, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment ? Et donc, toute la difficulté, moi, en général, je dis, qu'est-ce que tu veux ? Alors, on ne va pas ouvrir le capot, c'est le bordel là-dedans. Allez, on va ouvrir le capot. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais si tu ne l'ouvres pas, on n'avancera pas. Parce que la logique, non, mais je vais serrer tous les boulons pour que, surtout, ça ne bouge pas, ça ne marche pas très longtemps. Et l'enjeu est toujours de se dire, bon, attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux ? Ah non, mais si on se met à se demander ce que je veux, ça va être le bazar, parce que ce que je veux, c'est nul. On va faire avec ça, on va commencer à regarder. Non, mais c'est compliqué, parce que je veux des trucs contradictoires. Très bien. Mais justement, il faut retirer le couvercle de la marmite et regarder ce qu'il y a là-dedans et comment permettre de hiérarchiser un peu les choses. Une des grandes difficultés des comportements addictifs, par exemple, c'est toujours que les gens ne sont pas tout à fait convaincus qu'ils veulent lâcher leur addiction, en général. Et il y a un enjeu important de dire, mais en fait, qu'est-ce que tu veux ? La question n'est pas, est-ce que Dieu n'est pas content ? Est-ce que... Non, on s'en fout, en l'occurrence. La question, c'est vraiment, qu'est-ce que tu veux ? Et c'est le premier point pour pouvoir ensuite agir librement. De la même façon... et de façon plus fondamentale et plus importante, quand il s'agit de discerner une vocation, la question par excellence, c'est qu'est-ce que tu veux ? Il m'est arrivé plusieurs fois, à un moment je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Tu m'envoies que des gens à qui je dis, non mais tu veux surtout pas devenir prêtre ou religieuse, toi, ça va pas. T'as pas du tout de vocation. Enfin, alors, je dis pas cette phrase-là comme ça, parce que c'est... Je suis pas prophète et je suis pas à la place des gens. Mais il faut toujours quand même renvoyer à quelle est ta volonté, et pas « oui, mais comme il n'y a plus beaucoup de prêtres, bah, je me dis que si c'est pas moi, qui va le faire ?» Bah écoute, c'est pas ton problème. Voilà, la question c'est qu'est-ce que tu penses être bon pour toi. Parce que c'est. Enfin, ah oui, non, mais je pense que c'est quand même utile un prêtre. Oui, un chirurgien aussi. Et tout le monde n'est pas fait pour être chirurgien. Enfin, on a quelque chose en soi à donner. Et c'est pas simplement chercher le truc qui, dans l'absolu, serait le plus utile. Sinon, on n'aurait que des chirurgiens et des éboueurs. Et pas beaucoup de profs de lettres. Non mais, et à tort précisément, parce que non mais c'est à dire qu'on se dit, personne va se dire c'est dans le top 3 des priorités mondiales, il faut qu'on élue Belle du Seigneur et apprécier, non mais c'est génial Belle du Seigneur et heureusement, enfin je suis très heureux d'avoir eu des preuves de lettres, heureusement. Mais heureusement qu'il y a des gens qui... Enfin, heureusement que mes profs de lettres ne se sont pas dit « je vais devenir chirurgien », ça aurait été probablement des catastrophes en chirurgie, et ils auraient tué des gens au lieu de leur donner le goût de vivre. Enfin, ça aurait été un peu dommage. Bref, la question est toujours... l'enjeu, c'est que Dieu n'est pas contre toi. Pour le dire de façon, si vous voulez, un peu plus théologique, pour t'amener quand même sur une note un peu normalière, et rester avec Thomas d'Aquin, Thomas dit, et je crois que c'est un principe essentiel de sa pensée, la grâce ne détruit pas la nature, elle se déploie dans la nature. La grâce ne détruit pas la nature, elle ne joue pas contre nous, c'est-à-dire que Dieu ne nous crée pas d'une certaine façon, et en nous disant, et alors là, petit jeu, ça c'était la création, maintenant... On va être sur le salut, on va te demander le contraire. Voilà, j'ai mis en toi le goût de la littérature, et derrière, tu arrives à faire vivre ça. Mais en fait, tu vas faire complètement autre chose. Bizarre. La question est toujours comment on fait, on reçoit la grâce de Dieu dans une nature qu'il a lui-même créée. Comment, voilà, et ça suppose d'accepter, de cesser de courir après une image de sainteté et de perfection pour... se poser sérieusement cette question qui est celle que Jésus d'ailleurs pose dans l'évangile, notamment à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est quand même curieux d'ailleurs quand Jésus pose cette question à l'aveugle Bartimée. Il y a un aveugle qui est là, qui gueule de loin parce qu'il veut voir Jésus. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Jésus. On l'amène à Jésus. Et Jésus, qui quand même, en plus, il connaît un peu le métier, guérir des malades, il sait faire, enfin, guérir des aveugles, et Jésus, au lieu de le guérir comme ça, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai l'impression que c'est Jésus qui est complètement aveugle, enfin, le truc a l'air évident, mais précisément, Jésus n'agit pas sur lui sans lui, ne le bypass en disant, de toute façon, moi je sais ce qu'il faut, c'est pas ça. Et donc, l'enjeu d'un discernement de vocation et l'enjeu d'une vie chrétienne, c'est précisément non pas de subir la volonté de Dieu sur moi, mais au contraire de comprendre où est mon bien véritable, comment engager véritablement ma liberté. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on croit qu'on va Mademoiselle.
Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai deux questions qui, je pense, sont un peu liées. Vous avez prononcé le mot de sainteté à un moment de votre intervention. Et je me disais, c'est vrai que l'exemple des saints que nous essayons tous de suivre, en tout cas, que nous prions, etc. Alors, bon, il n'y a sans doute pas une binarité dans leur manière de suivre le Christ, une prescription stupide, suivie de manière aveugle, mais il y a une forme de littéralité dans la manière qu'ils ont d'aborder, notamment le serment sur la montagne, Enfin, je pense que tous les saints carmes, enfin après la vie du Christ, mais très littéral, je pense aussi à Saint François quand vous parliez. Et je me disais, en fait, enfin, leur liberté, c'est comme aussi acquise au fil de cette imitation du Christ, et pas forcément, je ne vais pas donner l'impression d'avoir de tort ce que vous avez dit, mais dans le fait d'appliquer les commandements de manière raisonnable, précisément ce qui frappe de leur exemple, c'est une forme de démesure et de très grande générosité. Et je me disais que peut-être il y avait un risque à lire ces pages d'évangile en ayant une attention très très forte au contexte dans lequel on se trouve, un risque à peut-être se limiter soi-même dans la suite du Christ. Et ma deuxième question qui est un peu liée, c'est qu'est-ce qu'on fait du double commandement d'aimer, donc Dieu et le prochain, qui me semble quand même fonctionner sur le paradigme que vous avez un peu évincé au début de votre conférence à cause de la lecture luthérienne. Enfin, le paradigme, justement, un commandement qui est complètement hors de portée et qui est vraiment un horizon qu'on essaye sans arrêt de s'en approcher. Et que vraiment, je n'arrive pas à comprendre autrement que comme cela.
Désolée
pour
la... Non, mais si, c'est très, très bien. Hop là, je note juste la deuxième, parce que sinon je vais oublier. La vie des saints est toujours intéressante à regarder de façon pas trop pieuse. Et de façon pas trop pieuse parce que on a vite fait de faire des espèces d'images pour enfants qui ne ressemblent pas du tout à la réalité de la vie. Et ça, c'est de fait, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'il y a des vies de saints qui peuvent compliquer la vie des gens, les complexer, faire l'impasse sur tout un tas de réalités rencontrées par... je ne connais pas super bien les saints du Carmel. Vous avez cité aussi Saint François. Mais justement, restons avec Saint François, qui est une personnalité attachante parce que compliquée. C'est-à-dire que François est certainement une personnalité très dépressive, qui connaît des moments d'effondrement psychique total. Enfin, c'est quelqu'un qui passe par plein de trucs quand même. Et François, justement, dans sa littéralité, dans son rapport de littéralité par rapport à la parole de Dieu, à différents moments. Vous savez qu'à San Damiano, il voit, il entend le fameux crucifix qui lui parle et qui lui dit « François, répare mon église en ruine ». Et qui commence par prendre une truelle et un sac de ciment. Précisément par littéralité complète. Et cette littéralité-là, il comprend assez vite d'ailleurs qu'elle est inexacte. Qu'en fait, il est appelé à plus, à plus grand, à plus long. Peut-être que ça a été une étape intéressante, mais elle n'est pas du tout la fin du commandement. Au contraire.
Il est associé à la pauvreté du Christ, et justement sa manière d'être libre, c'est plutôt de vivre dans sa personnalité qui du coup est réceptive à cette particularité de la vie du Christ, ce qui pourtant relaie dans l'évangile d'un commandement qu'on peut lire
très... Quand vous avez plusieurs littéralités d'une même phrase, c'est que c'est pas plus de la littéralité. C'est-à-dire que si répare mon église en ruine, si le fait d'aller empiler des briques, c'est une littéralité, et le fait de fonder un ordre qui a de fait une influence considérable sur l'ensemble du monde chrétien, c'est une autre manière littérale. Il n'y a plus rien qui soit littéral. Mais donc dans le cas d'espèce, il y a bien une littéralité première, naïve, qu'il s'agit de dépasser pour vivre autrement. Ensuite, j'entends bien que dans la vie de François, quand il dit, quand on lui dit, il faut une règle pour les franciscains, qu'il dit, ma règle c'est l'évangile. Sine glossa, il entend bien vivre une forme d'immédiateté par rapport à l'évangile, sans trop compliquer les choses, mais précisément la manière dont il le vit n'est pas du tout dans une soumission à un certain nombre de règlements. C'est pour ça qu'il n'a pas envie de faire une règle, c'est parce que il ne sait pas d'ailleurs de transformer l'évangile en règle. Ce que je crois, ce dont François vit, c'est l'esprit de l'évangile. Et c'est ça qu'il veut. C'est pour ça qu'il veut. Il veut pas en faire des gloses. En réalité, quand on est juriste, on fait des gloses tout le temps. Et c'est la passion du juriste. C'est qu'on se dit, bah, que, justement, il faut prévoir les cas, il faut faire le truc. François refuse ça, pas par littéralité, en tout cas, à mon avis, mais au contraire, pour préserver l'esprit de l'Évangile. François a respiré de manière qui a été pour lui totalement bouleversante l'esprit de l'Évangile, et il se dit, il faut vivre de ça. Et c'est pour ça qu'il en vit de l'intérieur. Que toute l'évidence de l'expérience de François, c'est qu'il vit l'Évangile, non pas en essayant de coller à un truc extérieur, mais que de l'intérieur, il en vit, et le premier signe de ça, c'est la joie, qui est si centrale dans la spiritualité de François. C'est qu'il il trouve dans l'esprit de l'Évangile le lieu où il va pouvoir vivre pleinement, entièrement, complètement, avec une pauvreté qui est vécue avec passion et absolument sans limite. C'est-à-dire que je vous remercie pour votre question, parce que précisément, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est pas du tout on se calme, il faut pas aller trop loin, c'est pas ça. Mais il faut pas aller n'importe où, il faut pas aller dans de fausses directions, parce qu'il y a de fausses directions, oui, parce qu'une femme battue qui se dit je vais me laisser tabasser parce que c'est formidable, ça fait plaisir à Jésus, c'est pas la beauté de l'Évangile, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va trop loin, c'est quelqu'un qui va complètement dans une mauvaise direction. Et on ne peut pas dire, mais si, vas-y, laisse-toi tabasser. Enfin, c'est criminel. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose que. Il ne s'agit pas de dire, bon, il faut un petit truc un petit peu raisonnable. Je crois que, au contraire, le fait de suivre cette liberté-là nous permet précisément. D'être moins tenu par des évidences raisonnables qui sont souvent des évidences de notre milieu plus ou moins large. Et c'est là que le lien avec votre deuxième question est important. C'est que, dans ce que j'ai pu vous dire, mais enfin, on n'a pas le temps de tout dire, mais justement, les questions servent aussi à ça, il y a là-dedans une place immense pour l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint qui nous est donné, qu'on reçoit en nous, pour qu'il nous guide, pour qu'il nous fasse vivre, n'est pas quelque chose d'extérieur. Au contraire, c'est Dieu qu'on reçoit en nous. Et qui... vous vous demandez quel est le lien avec votre question sur le commandement de la charité, mais outre le fait que précisément l'Esprit-Saint, c'est l'amour même de Dieu, c'est l'amour qui unit le Père et le Fils, c'est pas pour rien que c'est lui qui nous est donné. C'est, je crois, exactement ce dont Jésus parle quand il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » J'ai tout à l'heure, de façon un peu facile, dit « Écoutez, c'est quand même pas simple d'aimer comme il nous a aimé. » En jouant là-dessus, de façon pas tout à fait honnête, je m'en confesse devant vous, sur la polysémie du mot « comme ». Du « comme je vous ai aimé ». J'ai fait semblant de le comprendre comme s'il signifiait un comme d'imitation. Comme si ça voulait juste dire de la même façon que moi je vous ai aimé. Or, il y a des hellénistes ici. Voilà, il y a un gang d'hellénistes sérieux. Vous savez certainement que le comme je vous ai aimé dont parle Jésus, c'est pas os, ros tout court. C'est katros, ce qui, d'après les hellénistes plus distingués que moi, renvoie à l'origine. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres, faudra-t-il traduire, semble-t-il, aimez-vous les uns les autres, non pas de la même façon, c'est pas l'imitation qui est en jeu, c'est la source. C'est-à-dire, aimez-vous les uns les autres de l'amour dont moi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres avec l'amour que moi je vous donne. Aimez-vous les uns les autres, partagez l'amour dont vous avez d'abord été aimé. Et pas, faites un effort, parce que là, il faut faire un peu bosser votre petit cœur, parce que là, vous ne produisez quand même pas beaucoup d'amour de votre prochain. Mais bien, laissez-vous aimer, et à partir de là, vivez, partagez de cet amour que vous avez reçu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle de liberté qu'il faut tout faire tout seul. Au contraire, le cœur de la vie chrétienne, on le reçoit. On le reçoit de Dieu. Et c'est précisément cet amour-là, qui est l'amour même de Dieu, l'amour divin, c'est l'Esprit Saint, dont on peut, qu'on a reçu, qu'on reçoit, dont on est aimé, et qui nous permet d'aimer Dieu et notre prochain. D'un même amour, en fait. D'un même amour qui n'est pas le nôtre, qui est celui de Dieu. Là, c'est le gang de ceux qui posent des questions.
Je reviens sur la question de la conscience et ouais. De alors, je confesse ne pas avoir lu Saint Thomas ou Skinner.
C'est grave.
Et sur la place de la dimension, je veux dire consciente de la conscience morale, à partir d'un petit problème de pensée. Vous dites que si la conscience se trompe, il faut soucier de conscience, mais il y a faute parce qu'on n'a pas formé la conscience. Oui. Mais s'il y a faute parce qu'on n'a pas formé la conscience, ça veut dire que la conscience nous a dit qu'elle devait être formée et qu'on ne l'a pas suivie. Mais si elle n'a pas été formée, comme on pouvait, etc., etc., parce que vous voyez mon problème. Mmh. Et est-ce que du coup, il ne se résout pas en donnant à la conscience morale une dimension un peu plus large que la simple conscience-conscience, mais quelque chose de... d'un sens... une faculté profonde, toujours inscrite dans l'homme, dès sa naissance, et qui lui donne déjà une direction vers le bien.
Et ben cette faculté, c'est ce qu'on appelle la conscience. Ça tombe bien. Non, mais je vois bien ce que vous voulez dire, c'est qu'elle est, elle est plus ou moins discursive, elle correspond plus ou moins à des raisonnements, mais quoi qu'il en soit, elle existe en vous, même quand... vous n'avez pas lu Saint Thomas, même quand vous n'avez pas lu tout un tas d'auteurs passionnants qui vous permettent de discerner, de faire la casuistique, voilà, vous n'avez pas, il n'y a pas besoin de tout ça pour avoir une conscience morale. Elle est plus ou moins linéaire, enfin voilà. Mais en revanche, je crois que le problème que vous posez est un faux problème. Pourquoi ? Parce que il y a des actes différents, justement. L'acte de qu'est-ce que je vais dire, je vais reprendre mon exemple tout à l'heure qui est un peu nul, mais c'est celui que j'ai sous la main, donc ouvrir des bières avec les dents. Je n'ai pas formé ma conscience sur le sujet. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de commandements de l'Église sur la question, mais je n'ai pas formé ma conscience sur le sujet. J'ai pas beaucoup réfléchi, je me suis. Mais l'acte lui-même, le moment où je fais ça, de fait, en conscience, il n'y a pas de problème, mais c'est pas la même chose que le moment où j'aurais pu commencer à y travailler. Enfin, c'est deux actes différents. Se former et ouvrir une bière avec les dents, c'est pas la même chose. Et donc il y a deux actes différents qui peuvent avoir des qualifications morales différentes.
Oui,
mais ça explique que dans un cas. Enfin, que vous donner les formules exactes de Thomas, la conscience oblige toujours, mais la conscience n'excuse pas toujours.
D'accord. Mais dans ce cas, est-ce qu'il y a quand même dans la conscience une partie d'orientation, enfin, pas d'orientation bien, parce que la connaissance est orientée au bien, mais de cette connaissance du bien qui est indépendante de toute formation. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'en conscience, il y a certaines choses qu'en conscience, il ne peut pas avoir vraiment en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Que sa conscience devait nécessairement lui dire que c'était mauvais.
Le problème, c'est que la conscience peut être tout à fait altérée. Vous avez, on voit très bien, vous pouvez être dans un milieu où telle ou telle action paraît banale et vraiment pas grave. Et ça peut endormir en tout cas une conscience. Vous grandissez dans un univers où on assassine à tour de bras, vous ne dites pas, c'est l'horreur. Vous voyez, c'est pas et donc elle est toujours, on peut toujours l'endormir, on peut toujours
Ouais.
Et en conscience, on est obligé de faire la vaisselle.